Dr. Douglas Winnell. Êtes-vous prêt? Hier, j'ai rendu visite à une famille de l'église, ici à Charlotte. Un travailleur de la santé, qui a l'habitude de venir chez eux plusieurs fois par semaine, se trouvait justement là, à mon arrivée, et je l'ai entendu qui faisait des commentaires à propos de ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle. Ce travailleur de la santé, une femme, qui vit comme nous la présente pandémie et qui sait que cette famille est religieuse, posa alors la question « Est-ce que nous approchons de la fin de l'âge ?»« Oui, est-ce que nous approchons de la fin de l'âge ?» Et elle a ajouté « J'ai entendu dire que la Bible parle d'une marque de la bête. Se pourrait-il que cela réfère à ces vaccins qui nous sont imposés ?» En guise de réponse, la famille lui a alors suggéré de lire la brochure que nous avons publiée sur le sujet. « La bête de l'Apocalypse. Mythe, métaphore ou réalité à venir ?» Elle semblait être intéressée à la lire, mais il reste à voir si elle donnera suite à son intérêt du moment. Intéressant. En effet, comme vous le savez, depuis des années, nous ne cessons de parler du retour de Christ et du fait que la fin de l'âge est proche. Et voilà cette femme qui vient chez cette famille de l'Église et qui est préoccupée par la même chose, le retour de Jésus-Christ, la fin de l'âge. Je faisais des recherches sur Internet l'autre jour et je me suis souvenu qu'à l'approche de l'an 2000, les gens se demandaient également si la fin de l'âge allait arriver et si les ordinateurs allaient faire toutes ces choses. Évidemment, beaucoup de ces choses ne se sont pas produites, mais on était appréhensif. Si vous remontez encore plus loin dans le temps, jusqu'en l'an 1000 de notre ère, là encore, on s'attendait à ce que quelque chose de grave se produise. Hier, j'ai noté quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. Il y a maintenant quelqu'un qui prédit que la fin de l'âge arrivera dans 7 ans, un 28 septembre. Oui, selon cette personne, Christ arriverait le 28 septembre 2028. Cela me fait penser aux années 80, lorsque ce pasteur, quelque part dans le nord-ouest du continent, avait rassemblé des gens sur la plage pour attendre le retour de Christ. Évidemment, cela n'a pas eu lieu. Dans Matthieu chapitre 19, les disciples avaient demandé à Jésus-Christ quel serait le signe de son retour et de la fin de l'âge. En posant cette question, ils avaient évidemment un motif à l'esprit. Ils se souvenaient que Jésus-Christ leur avait dit qu'ils allaient régner avec lui. C'est effectivement ce que Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 19, au verset 28 et 29. Il était donc normal qu'ils aient voulu savoir quand cela allait se produire. Par ailleurs, dans Actes chapitre 1, juste avant qu'ils ne montent au ciel, Jésus leur avait dit de rester à Jérusalem et d'attendre ce que le Père avait promis. Ils voulurent alors savoir si c'était parce qu'il allait à ce moment-là restaurer le royaume, mais il s'empressa de leur faire comprendre que ce n'est pas encore le moment. Toujours est-il qu'ils savaient que quelque chose allait arriver, et ils avaient hâte d'y prendre part. Et vous savez, nous aussi, nous sommes impatients. Nous aussi, nous sommes impatients de participer à ce qui se prépare. Tournons-nous rapidement vers Matthieu chapitre 24, où l'on élabore un peu sur ce qui fut discuté à ce moment-là. Matthieu chapitre 24, verset 3. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Il est ici question de la destruction du temple. Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Christ a ensuite énuméré toute une série de choses qui allaient se produire, pour finalement terminer au verset 42 par cette recommandation « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Oui, veillez. Et Christ ajouta au verset 44 « C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Voyons aussi Matthieu chapitre 25. Au verset 13, il est dit, Matthieu 25, verset 13, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » À nouveau, le même avertissement, « Veillez. » Mais remontons au verset 10, où il est question des 5 vierges sages. Matthieu 25, verset 10. « Pendant qu'elles allaient en acheter, les vierges folles, car les sages avaient de l'huile dans leurs lampes. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Toutes ces vierges auraient dû veiller, se tenir prêtes. Apparemment, cinq d'entre elles ne l'étaient pas. Mais celles qui étaient prêtes furent admises dans le royaume. On ne s'y reportera pas, mais dans Marc chapitre 13, au verset 33 à 35, Jésus répète à trois reprises « Veillez, 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 oui, veillez ». De même, dans Luc 21, verset 36, il dit « Veillez donc et priez en tout temps ». Oui, il nous faut prier, afin d'être jugés dignes d'entrer dans le royaume de Dieu. Soyons donc prêts. Vous savez, au fil des ans, nous avons beaucoup parlé de veiller et d'être prêts pour l'époque où Christ reviendra. Mais y aurait-il plus à faire que de simplement veiller et observer ce qui se passe dans le monde? Oui, suffit-il de se tenir au courant, d'observer et de veiller? Certes, il nous faut veiller. Cela nous est répété au moins à 6 ou 7 reprises dans le Nouveau Testament. Mais on met aussi l'accent sur le fait d'être prêt. Oui, ce concept d'être prêt est également mentionné. Dans le sermon d'aujourd'hui, je veux mettre l'accent sur le fait qu'il nous faut être prêt. Il y a quelques semaines, M. Strain a donné un sermon où il parlait d'une crise à venir. Il parlait de la fin de l'âge. Pour ma part, je veux aborder le sujet de se tenir prêt. Que devons-nous faire pour être prêts? Oui, que devons-nous faire pour être prêts quand les choses annoncées arriveront? Comment s'y préparer? J'ai intitulé ce sermon « Êtes-vous prêt ?» avec un sous-titre « 7 façons d'être prêt ». Je vais donc parler de 7 façons d'être prêt, de choses que nous pouvons faire dès maintenant pour l'être. Point numéro 1. Êtes-vous prêt pour la fin de l'âge? Et notez que je mets l'accent sur « prêt ». Oui, êtes-vous prêt pour la fin de l'âge et le retour de Jésus-Christ? Nous avons une brochure intitulée « 14 signes annonçant le retour du Christ ». Quand l'avez-vous lu pour la dernière fois? Ne dites pas que vous savez ce qu'elle contient. À quand remonte la dernière fois que vous l'avez relue? Elle nous dit ce qu'il nous faut surveiller, ce qu'il nous faut avoir à l'œil. Ces choses sont mentionnées dans Matthieu chapitre 24, Marc 13 et Luc 21. Nous ne parlons pas beaucoup de lune teintée de sang. Nous ne parlons pas beaucoup de l'an 2000. Nous avons passé ce stade. Certes, les gens avaient appréhendé l'approche de l'an 2000, mais rien ne s'était produit à ce moment-là. Nous ne parlons pas non plus de ceux qui se promènent en arborant le chiffre 666 ou une pancarte annonçant que la fin du monde est proche. Par contre, notre brochure, elle, décrit 14 signes spécifiques qui précéderont cet avènement. Rendons-nous à 2 Timothée, car je veux parler un peu de la fin de l'âge avant d'aborder le reste de ce sermon. Voyons notamment le chapitre 3, car la Bible décrit ce qui va se passer lors du retour de Christ à plusieurs endroits, pas seulement dans Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21. Tournons-nous donc vers 2 Timothée, chapitre 3, au verset 1. 2 Timothée, chapitre 3, au verset 1, où il est dit « Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Oui, nous vivrons alors des temps difficiles, des temps périlleux. Il faut s'y attendre. Nous nous efforçons en ce moment d'échafauder des plans à propos de divers sites de fêtes pour cet automne 2021, alors que nous ne savons même pas ce qui va être verrouillé. En effet, nous ne savons pas à quelles exigences nous serons soumis dans certains de ces sites potentiels. Il me semble que nous avons déjà reçu une note émanant des Philippines qui disait « Nous n'accepterons aucune personne sur notre propriété à moins qu'elle ne soit vaccinée, à moins qu'elle ne fasse ceci ou qu'elle s'abstienne de faire cela. » Cela complique vraiment les choses. J'ai vu une parodie l'autre jour, mais elle n'est peut-être pas si éloignée de la vérité. Elle montrait un type qui interviewait des gens dans la rue tout en s'efforçant de leur faire signer une pétition. Son intention était de faire mettre en prison ceux qui refusaient obstinément de se faire vacciner. « Voulez-vous signer cette pétition ?» Beaucoup s'exécutaient sans mot dire. D'autres s'offusquaient, disant « Vous moquez-vous de moi ?» Toujours est-il que l'intention de cet individu fictif était de faire jeter en prison ceux qui refusaient de se plier à ses quatre volontés. Encore une fois, c'était présenté comme une parodie, et il plaisantait un peu avec ça. Mais où cela pourrait-il mener? Il faudra voir. Seul l'avenir le dira. 2 Timothée chapitre 3 verset 1 disait donc que des temps difficiles allaient arriver. Verset 2, « Car les hommes seront égoïstes. » La Bible King James dit que « les hommes seront épris d'eux-mêmes ». Nous avons de nos jours cet engouement pour les selfies. Oui, nous prenons des selfies avec nos téléphones portables. Tout tourne constamment autour du « moi ». À nouveau, « car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent ». Oui, ils auront une attitude très matérialiste, disant « si ça ne me rapporte rien, je ne le ferai pas ». Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Oui, ils se moqueront de Dieu et de la Bible. Vous savez, si vous remontez dans le temps, jusqu'à l'époque de la fondation de l'Amérique, à cette époque-là, 97% ou plus des habitants de la Nouvelle-Angleterre étaient des chrétiens protestants. Ils allaient à l'église. Si vous n'alliez pas à l'église, c'est que quelque chose n'allait pas chez vous. Maintenant, de moins en moins de gens vont à l'église. Oui, les choses changent dans notre pays. Poursuivons. Blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, versets 3 et 4, insensibles, la King James parle de manquer d'amour, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Oui, tout le monde veut faire la fête aujourd'hui. On cherche à s'amuser tout le temps. Cela décrit bien notre époque actuelle, encore que ce ne sont là que quelques-unes de ces caractéristiques. Tournons-nous aussi brièvement vers Luc chapitre 17, où il est question du retour de Jésus-Christ. Luc 17, verset 26. « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. » Donc, au retour de Christ, il en sera comme du temps de Noé. Cela est d'ailleurs aussi mentionné dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 37. Il serait bon d'aller aussi au chapitre 6 de la Genèse, notamment au verset 5, pour voir ce qui se passait juste avant le déluge, à savoir que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. Voilà pourquoi Dieu a détruit le monde antédiluvien. Cela dit, considérez ce qui se passe aujourd'hui. N'est-ce pas pareil? Dès que vous allez sur Internet pour accomplir une tâche quelconque, voilà que surgissent toutes ces choses qui sont mauvaises. Il en est de même lorsque vous voulez écouter un film à la télévision. Le langage est grossier. Les intrigues sont diaboliques. On dira peut-être que j'exagère. Mais non, nous n'exagérons pas. C'est malheureusement la dure réalité. Je me souviens de l'époque où je regardais la télévision dans les années 50, lorsqu'on nous présentait des films de famille rafraîchissants, du genre « Father Knows Best », des films où l'on n'entendait pas de gros mots et où les intrigues étaient de bon aloi. Mais aujourd'hui, on n'a même plus envie de regarder la télévision. Nous vivons dans un monde bien différent. Cependant, il fut un temps où c'était pareil, un temps où toute pensée des hommes était mauvaise et où la terre était aussi remplie de violence et de corruption. On en parle un peu dans Genèse chapitre 5 et au chapitre 6. Combien de temps a duré le ministère de Noé? On le sait, Noé avait environ 500 ans quand vint le déluge, et environ 600 quand les eaux se sont retirées et qu'il put sortir de l'arche. Cela laisse supposer que son ministère aurait duré environ 100 ans. Par ailleurs, la Bible mentionne que, dorénavant, après le déluge, la vie de l'homme n'excéderait pas 120 ans, à moins qu'il ne s'agisse, là encore, de la durée totale du ministère de Noé. Et il est un fait que, de nos jours, rares sont les personnes qui vivent bien au-delà de 100 ans. Pour sa part, Noé a donc eu un ministère d'environ 100 ans. Il avait construit ce grand bateau sur son terrain. Si vous allez à Cincinnati, vous pourrez voir la maquette de l'arche. Elle est grande, énorme. C'est plus long qu'un terrain de football et haut d'environ 4 étages. Noé a donc construit quelque chose de cette envergure, et cela lui a pris près d'un siècle. À ceux qui doutent qu'une telle construction ait pu lui prendre près de 100 ans, pensez seulement au temps qu'il a fallu pour construire certaines cathédrales à l'époque du Moyen-Âge. Pour certaines, il a fallu même plus qu'un siècle, un véritable exploit pour l'époque. Toujours est-il que l'arche a requis environ 100 ans pour être achevée. Puis le déluge est venu et les a tous emportés. Cela dit, quelle a été la durée du ministère de M. Armstrong? Il a été ordonné en 1930. Nous sommes maintenant pas très loin de 2030. Je ne sais pas si l'on peut ici établir un parallèle, et je ne veux certainement pas fixer de date. Tout ce que je dis, c'est que nous avons été impliqués dans une œuvre qui aura bientôt été active pendant près d'un siècle elle aussi. Oui, M. Armstrong n'a-t-il pas commencé ses émissions radio au tout début de 1933? Nous devrions donc avoir l'œil ouvert et observer ce que l'avenir va nous réserver. Nous pourrions en effet être plus proches de la fin de l'âge que nous ne le pensons. Voyons aussi ce qui est dit un peu plus loin, à partir du verset 28. Luc 17, versets 28 et 29. « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. » Il vous faudrait retourner à Genèse chapitre 18 et 19 et lire un peu à propos de Sodome et Gomorre. Dans Genèse chapitre 19, on voit ces anges qui se rendent chez Lot, qui les avait fait entrer dans sa maison. Ces anges qui étaient venus vers Lot lui avaient annoncé que les voies des hommes de Sodome étaient abominables aux yeux de Dieu. Et, de fait, peu après, voilà qu'une grande foule s'amasse autour de la maison de Lot, criant « Fais-les sortir! Fais-les sortir! Fais-les sortir pour que nous les connaissions! Ne vous y méprenez pas, ils voulaient, ni plus ni moins, se livrer à des perversions sexuelles avec eux. Ils avaient tous hâte de commencer, la ville entière. Où en sommes-nous aujourd'hui? Eh bien, nous encourageons les mêmes types de perversions homosexuelles. C'est rendu au point où tous ceux qui refusent d'entériner ce genre de perversion, qu'il s'agisse de l'autorité gouvernementale, municipale ou peu importe, se verront soumis à d'intenses pressions. C'est intolérable. Il n'y a pas si longtemps, le président Obama était allé au Kenya. Certains pensent qu'il y est né. En tout cas, sa famille semble toujours vivre là-bas, car lorsqu'on s'y rend, c'est dans l'ouest du Kenya, on peut voir cette ferme qui porte son nom. Oh, ce n'est pas un endroit très impressionnant, mais ses racines sont là. En réalité, quand vous demandez aux gens du pays s'il est d'ici, ils vous répondront « Non, il est du Nord. » Toujours est-il que, durant sa présidence, il s'était rendu là-bas et leur avait dit en substance « Nous allons vous couper notre aide financière si vous n'ouvrez pas votre société à l'homosexualité. » À cela, le gouvernement local lui avait répondu « Nous ne ferons pas ça. Une telle pratique n'est pas dans nos mœurs. » Imaginez, ils ont répondu ainsi au président des États-Unis. Notez-le, notez le genre de pression qui émane à présent de nos nations occidentales qui s'adonnent à ce genre de vices. Sodome et Gomorre ont été détruites par le feu et le soufre. Qu'est-ce qui attend l'Amérique et les nations occidentales qui encouragent ce genre de perversion? Et quand cela va-t-il arriver? Oui, combien de temps Dieu va-t-il encore tolérer cela? Sommes-nous proches de la fin de l'âge? Il semble bien que oui. Nous ne fixons pas de date, mais soyons vigilants et préparés. Je suis tombé sur quelques articles traitant des péchés de Sodome et Gomorre, des articles écrits par des théologiens. Ils ne mentionnent pas explicitement l'homosexualité. Ils se réfèrent plutôt à Ézéchiel chapitre 16, versets 49 et 50, où il est question d'orgueil, d'un manque de considération pour les pauvres du fait de mener un grand train de vie et d'autres abominations. Lisez aussi Lévitique chapitre 18, verset 22, où il est question de ces choses qui sont une abomination aux yeux de Dieu, et cela inclut l'homosexualité. Je me souviens de cette conférence publique que nous avions donnée en Floride, il y a quelques années. J'avais alors parlé d'homosexualité, et il y avait parmi l'assistance une jeune femme et sa mère. Cette jeune femme était venue me voir après la conférence pour dire « Pourquoi êtes-vous si dur envers les homosexuels? Ne sont-ils pas aussi des personnes ?» À cela, je répondis « Nous ne sommes pas contre les gens, mais nous nous objectons à ce qu'ils font. » Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de si mal à ça? Après tout, n'est-ce pas aujourd'hui un style de vie alternatif? Selon elle, comme c'est maintenant accepté par la société en tant que mode de vie alternatif, on ne devrait donc pas dénigrer de telles pratiques. Voilà où nous en sommes. C'est désolant. Citons rapidement quelques autres écritures en passant sans nécessairement nous y reporter. Jérémie chapitre 23, versets 13 et 14 parle d'Israël et de Juda en tant qu'exemple de ce qu'était Sodome et Gomorre. La Bible dit qu'il s'y passait des choses qui faisaient penser à Sodome et Gomorre. On pourrait peut-être aussi aller à Deutéronome chapitre 31 au verset 29, où se trouve une prophétie à double interprétation, car elle s'applique tout autant à nos nations actuelles, à l'Israël des temps modernes. Voyons-le. Moïse écrivait probablement cela vers 1400 avant Jésus-Christ. Deutéronome, chapitre 31, verset 29. « Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez. Cela pourrait-il s'appliquer à nos nations contemporaines ?»« Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite. » Ainsi, la loi nous commande de ne pas commettre l'adultère, de ne pas commettre de fornication. Vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite, et le malheur finira par vous atteindre, quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. Les habitants de Sodome et Gomorre avaient provoqué la colère de Dieu, et ils furent donc exterminés. D'accord, ils seront ramenés à la vie physique lors de la deuxième résurrection, mais notez que Dieu est intervenu à un moment donné et a littéralement changé le cours de l'histoire. Comme il est dit à la fin du verset 29, « Ils l'avaient irrité par l'œuvre de leurs mains. » On ne s'y reportera pas, mais notez que Deutéronome chapitre 28, verset 20, dit que notre chute va arriver soudainement. Ce verset dit en effet « Jusqu'à ce que tu périsses promptement » à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Promptement signifie-t-il dans quelques heures, quelques jours ou quelques semaines? Vous savez, il a fallu à l'Empire romain environ 3, 4 ou 5 siècles pour s'effondrer, mais une fois son déclin amorcé, il s'est poursuivi inexorablement. Il a probablement fallu moins de 2 heures pour détruire Sodome et Gomorre. Dans le cas du déluge de l'époque de Noé, il a fallu un certain nombre de jours pour que la pluie ensevelisse tout. Combien de temps cela va-t-il prendre pour nous? Vous savez, à l'époque d'Internet, des pirates informatiques seraient en mesure de tout perturber en seulement quelques heures, voire même quelques minutes. Pensez-y. Et soyez vigilants. Voyons aussi Daniel chapitre 8 au verset 23, où il est question des temps de la fin et du règne des royaumes païens. Daniel chapitre 8 verset 23. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Je vais ici me concentrer sur ce verset particulier. D'autres versions disent « Au temps de la fin, lorsque les transgresseurs auront atteint leur plénitude. » Vous pouvez aussi consulter certains commentaires bibliques à propos du même verset. L'un d'eux dit « Dans les derniers temps, quand la méchanceté des hommes dépassera les limites de la miséricorde de Dieu. Bon, manifestement, Sodome et Gomorre ont dû jadis dépasser les limites de la miséricorde de Dieu. Mais qu'en sera-t-il de nous, de nos nations israélites contemporaines, qui ont été bénies de manière incroyable? Oui, qu'en sera-t-il de nous, quand on considère ce que nous faisons et les exemples que nous donnons? Combien de temps Dieu va-t-il encore attendre avant de nous châtier à notre tour? Et vous savez, cela pourrait arriver très soudainement, oui, très soudainement. Revenons à Ésaïe, chapitre 24, qui parle des temps de la fin, d'un événement à venir. Ésaïe 24, verset 4. Le pays est triste, épuisé. Les habitants sont abattus, languissants. Les chefs du peuple sont sans force. Verset 5. Le pays était profané par ses habitants. Certaines versions disent « souillé » au lieu de « profané ». Il est probablement ici question de notre dégradation morale. Notez qu'on parle ici du pays. D'autres versions parlent de la terre. Ce n'est donc pas uniquement l'Israël moderne qui est en cause. À nouveau, le pays était profané par ses habitants, car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. Dieu avait effectivement conclu une alliance avec Israël. Mais quelles en étaient les clauses? Les voici en bref. Si vous obéissez, vous serez bénis. Si vous désobéissez, il y aura des conséquences. Et n'est-ce pas là ce que nous disons aussi à nos enfants? Si vous obéissez, les choses iront beaucoup mieux. Si vous n'obéissez pas, il y aura des conséquences. Oui, lorsque les êtres humains se détournent des lois de Dieu, il y aura des conséquences. La dernière partie du verset 6 dit en effet, « C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés, et il n'en reste qu'un petit nombre. » Lorsqu'une société emprunte cette voie, elle court à sa perte à plus ou moins brève échéance. Dieu a déjà détruit toute une société par le déluge. Il a aussi détruit Sodome et Gomorre. Et il ne s'agissait pas de son peuple, d'Israël. Le monde se dirige présentement vers la catastrophe. Pensez-vous que nous sommes les seuls à dire cela, à dire que le monde arrive à sa fin, que la fin de l'âge est proche? Non, car d'autres personnes dans le monde disent la même chose. Il existe un livre auquel nous nous sommes référés à plusieurs reprises dans le passé. Il est intitulé « When Nations Die », « Quand des nations s'effondrent ». Il a été publié en 1994, il y a donc près de 30 ans. Ce genre de livre n'est pas nécessairement une publication chrétienne. Il est un produit de ce monde. Il émane de certaines personnes qui observent notre société contemporaine, qui l'ont en fait observé durant les 30 ou 40 dernières années. À nouveau, son titre au complet est « Quand des nations s'effondrent, l'Amérique au bord du précipice. 10 signes avant-coureurs d'une culture en crise ». Ces 10 signes précurseurs incluent une dette qui s'emballe, des familles qui se désagrègent, une moralité qui va à la dérive. L'auteur disait, en se basant sur une étude des civilisations déchues du passé, que toute civilisation qui emprunte une telle voie connaîtra un sort similaire. Et il a écrit cela il y a déjà une trentaine d'années. Il y a aussi un juge, Robert Bork, qui a écrit un livre dont le titre est « Slouching Towards Gomorrah », en français « S'engager dans la voie de Gomorre ». Il l'a écrit en 2003 et il y parle exactement des mêmes choses. Une dette qui explose, des mariages qui se brisent, des enfants qui se retournent contre leurs parents, des valeurs qui s'effondrent. L'auteur est juif. Il était un juge. On lui a refusé de siéger à la Cour suprême parce qu'il écrivait des livres de ce genre. Dans ses livres, il abordait aussi des sujets comme celui de l'émancipation des femmes. Cela aussi n'était pas pour le rendre populaire, surtout aux yeux de ceux qui auraient dû approuver sa nomination à la Cour suprême. Patrick Buchanan, quant à lui, a écrit un livre en 2011 qui s'intitulait « The Death of the West », en français « La mort de l'Occident », un livre où il parle sans ménagement du déclin de la culture occidentale et de sa cause. Et cela était il y a 10 ans. Ce phénomène n'est donc pas récent. Patrick Buchanan a écrit un autre livre, en 2012, intitulé « La mort d'une superpuissance ». L'Amérique survivra-t-elle jusqu'en 2025 ? Ceci serait donc dans moins de 4 ans. Notez aussi qu'il a été conseiller auprès de plusieurs présidents. Ce ne sont donc pas des gens d'Église qui disent ces choses. Ce sont des gens qui observent le monde autour d'eux. Ils voient ce qui se passe. Alors que je rassemblais divers documents pour ce sermon, j'ai trouvé cet article qui apparut dans une revue sous le titre « Les leçons de Rome ». Décadence morale et corruption. Il datait de 2018, il n'y a donc pas longtemps. L'article traite de toutes sortes de sujets, entre autres de l'écart croissant entre les riches et les pauvres et de la corruption morale. Mais le thème sur lequel je voudrais me concentrer ici est celui de la corruption des frontières. Oui, la corruption des frontières de l'Empire romain. L'Empire était devenu si vaste qu'il était devenu très difficile de sécuriser ses frontières. On appelait les gens qui forçaient ses frontières des barbares. De nos jours, on les appellerait des réfugiés, des gens qui doivent souvent fuir leur propre pays. Et je m'abstiendrai de les blâmer pour cela. En effet, si vous étiez au courant de ce qu'ils vivaient dans leur pays d'origine, vous comprendriez pourquoi ils le fuyaient. Dans son exposé, l'auteur mentionne que les Romains ne pouvaient pas empêcher ces barbares d'entrer. Ceux-ci déferlaient par-delà leurs frontières en provenance de l'Est. Alors, comme ils ne pouvaient pas les arrêter, ils ont élaboré un plan. On allait les diviser et on leur donnerait des parcelles de terre au sein de l'Empire romain. Cela offrait des avantages aux Romains. Cela leur fournissait une main-d'œuvre bon marché et, par ailleurs, cela fournissait des recrues pour l'armée. Vous savez, c'est pareil aujourd'hui. En plus du fait qu'aujourd'hui, cela fournit aussi des votes. Il y avait donc un avantage à laisser entrer ces gens, et c'est ainsi qu'ils les ont répartis en divers lieux de l'Empire romain. Mais au fil du temps, alors que l'armée comptait de plus en plus de ses recrues, ces dernières ont fini par accorder une allégeance préférentielle aux commandants de leur région locale. Il en a résulté que les Vandales étaient ici, d'autres peuples étaient là-bas, et si on y pense bien, c'est ce qui a mené à la formation des nations d'Europe. Ces gens s'installaient dans l'Empire romain et prenaient en quelque sorte le contrôle de leur petite région particulière. Ils ne s'assimilaient pas vraiment. On a dit, l'Empire d'Occident a fini par se dissoudre pour donner naissance à de nouveaux royaumes, selon certaines lignées tribales, et selon la façon dont ces tribus ont réagi à cette politique d'apaisement. Politique qui, avec le recul du temps, peut être considérée comme un échec total. Encore aujourd'hui, nous laissons venir les gens, puis nous les conduisons en autobus par ici, en avion par là. Et les Chinois achètent ici, mais d'autres personnes achètent là-bas. Et tout cela à l'intérieur d'un pays. Finalement, dans le dernier paragraphe de son livre, l'auteur émet le commentaire suivant. Cette politique de frontières souples ou poreuses devrait nous enseigner que la faiblesse que nous manifestons à nos frontières, sous le couvert d'une soi-disant bienveillance envers ceux qui vous attaquent, constitue en réalité un cocktail mortel pour toute société. Oui, il qualifie cela de cocktail mortel pour chaque société qui s'y livre. C'est ce qui se passe en Europe, en Angleterre, chez nous aux États-Unis, de même qu'au Canada. Nous avions jadis l'habitude de nous rendre régulièrement dans la partie occidentale du Canada. À cette époque-là, tout le monde était essentiellement d'origine européenne. Mais la dernière fois que j'y suis allé, j'y ai vu beaucoup de turbans et autres accoutrements, ce qui, visiblement, n'évoquait pas la présence de Canadiens de souche européenne. C'était des gens qui s'étaient installés là, et tout change quand ça arrive. Cela dit, je ne suis pas raciste, mais quand vous admettez parmi vous toutes sortes de personnes qui ne s'assimilent visiblement pas, vous allez avoir des problèmes. Ainsi, il y a des quartiers à Paris où la police ne pénètre pas, car c'est trop risqué, c'est trop dangereux, parce que ça pullule de musulmans et de djihadistes. Donc c'est une zone interdite. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos pays. Autre chose que j'aimerais mentionner. Nous nous inquiétons actuellement des gens qui nous arrivent du Sud et qui pourraient nous apporter le COVID-19. Mais il y a un autre fléau, ce sont les drogues. Oui, ce sont ces drogues qu'ils introduisent, notamment ce qu'on appelle le fentanyl. C'est 100 fois plus puissant que la morphine. Oui, la morphine, l'héroïne, tout cela est lié. Ce sont des opiacés. Et voici une intéressante leçon d'histoire. Quand les Britanniques cultivaient l'opium en Inde, ils l'introduisaient ensuite en Chine, où ils le vendaient. Cet opium rendait les gens dépendants et détruisait leur société. Les Chinois n'aimaient pas ça, bien sûr. Simultanément, les Britanniques ont aussi amené quelques missionnaires avec eux. Les Chinois ont alors réagi en disant « Vous nous apportez l'opium qui nous détruit, puis vous faites venir des missionnaires. » Qu'est-ce que cela signifie? Mais revenons-en à notre époque actuelle. Savez-vous que le fentanyl qui traverse notre frontière avec le Mexique a ses éléments de base fabriqués en Chine? Ceux-ci sont ensuite envoyés au Mexique, où ils sont alors transformés en fentanyl avant d'être finalement envoyés à travers nos frontières. Résultat, l'année dernière, 80 000 personnes sont mortes d'overdose chez nous, aux États-Unis. Il y a près d'un siècle, dans les années 1840, 1850 et 1860, les Britanniques et les Français apportaient de l'opium en Chine. Et maintenant, les Chinois envoient des opioïdes chez nous, où ils produisent l'impact que nous savons. On se renvoie la balle, en quelque sorte. La Bible dit que nous allons récolter ce que nous aurons semé. Dieu est juste, et il permettra que nous récoltions les fruits de nos actions. Donc, frères et sœurs, nous devons veiller, nous devons observer ce qui se passe. Il y a un vieux dicton qui dit que si nous n'apprenons pas les leçons de l'histoire, nous allons répéter les erreurs du passé. Je vous pose donc la question, en particulier à vous les jeunes qui êtes parmi nous. Approchons-nous de la fin de l'âge? Êtes-vous prêts pour l'affronter? Les choses vont probablement devenir très difficiles ici, dans nos pays. Nous avons déjà parlé de cela au fil des ans, mais avez-vous des réserves de nourriture, d'eau et de choses qui vous permettront de survivre pendant plusieurs semaines, voire un mois ou plus, advenant une crise subite? Bien sûr, avoir une réserve de nourriture et d'eau est primordial. Mais si vous prenez des médicaments, soyez sûr d'en avoir aussi un surplus au cas où. Justement, il n'y a pas si longtemps, je parlais avec quelqu'un qui avait grandement besoin d'un certain médicament que son pharmacien n'arrivait pas à lui procurer. Cela lui avait causé beaucoup de problèmes. Alors, sommes-nous prêts pour la fin de l'âge? De nombreuses personnes, et pas uniquement des membres de l'Église, ont lancé des avertissements. Certains de ces livres précités datent d'il y a 30 ans, mais tous disent la même chose. Nous devons donc être attentifs, nous devons être prêts. Voilà, ceci était notre point numéro 1. Êtes-vous prêts pour la fin de l'âge et le retour de Jésus-Christ? Ne remettez pas les choses à plus tard. Certains diront « Oh, je serai prêt quand les événements se précipiteront ». Vous savez, si notre chute doit arriver précipitamment, aurez-vous le temps d'agir? Oh, certains diront « Je veux encore faire ce voyage » ou « Je viens de faire la connaissance de ce gars séduisant ou de cette fille qui m'épate ». Je vous avoue que lorsque nous nous sommes mariés, ma femme et moi, nous nous demandions aussi si nous allions avoir le temps de fonder une famille. Eh bien, nous avons maintenant 2 garçons et 5 petits-enfants. Certains d'entre vous ici présents auront-ils la même opportunité? Les événements peuvent se précipiter, vous savez. N'oublions pas cependant qu'il restera toujours 3 ans et demi dans le lieu de refuge, ce qui nous laissera encore une certaine latitude de manœuvre. Gardez tout cela à l'esprit. Point numéro 2. Êtes-vous prêt à défendre vos convictions? Oui, serez-vous prêt à défendre vos convictions? 2 Pierre chapitre 3 nous prévient que nous allons être persécutés. Il est difficile de prédire exactement quand et comment cela va se passer pour vous individuellement, mais nous nous attendons à ce que l'Église soit persécutée. Nous serons sûrement empêchés de dire certaines choses. En fait, nous avons déjà vécu une situation, aux États-Unis, où un de nos ministres a dit quelque chose dans un sermon. Cela a été enregistré par quelqu'un qui l'a ensuite transmis à des autorités gouvernementales et on nous a demandé de rendre des comptes. Ce n'était peut-être pas justifié, mais le fait est qu'on nous a fait comparaître pour nous interroger. Voyons donc 2 Pierre chapitre 3, les versets 3 et 4. Sachez avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? On nous dira, vous qui parlez ainsi, vous pensez que Christ va revenir. C'est une chimère. Oui, ce ne sont que des paroles en l'air. Nous allons sûrement tenir tête à une telle situation. Nous devrions en être capables. En effet, si quelqu'un devait vous ridiculiser pour vos croyances, cela devrait-il vous désarçonner? Cela va-t-il vous faire dévier de votre course? Êtes-vous fermement établi dans vos croyances, sachant d'où elles viennent? Si tel est le cas, rien ne pourra vous ébranler. Donc, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie. Nous les avons aujourd'hui. Ainsi, il y a Richard Dawkins, ce type en Angleterre, qui a toutes sortes de choses abominables à dire sur Dieu et sur la Bible. Il gagne beaucoup d'argent avec les livres qu'il vend. On parle beaucoup de lui. Il y a aussi cet autre individu de l'Université de la Caroline du Nord, Bart Ehrman, qui a publié je ne sais combien de livres, entre 5 et 10 je crois. Lui aussi s'acharne à critiquer la Bible. Comme beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Et puis, il y a aussi Bill Maher, qui parle, paraît-il, fréquemment à la télévision. On dit de lui qu'il est comédien, n'empêche qu'il ne se gêne pas pour se moquer de la religion et de la Bible. Il dit que pour que les humains survivent, la Bible doit mourir, des choses de ce genre. Oui, les moqueurs nous ont envahis. Jésus-Christ a été persécuté par les pharisiens. Les apôtres ont aussi été persécutés. Ils ont tué Étienne. L'apôtre Paul a dû se défendre. Cela est mentionné dans Actes chapitre 26, 27 et 28. Et il l'a fait en s'efforçant de ne pas offenser qui que ce soit. Après l'avoir écouté, Festus, le gouverneur de la Judée, a eu cette réplique. « Tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. » Quant au roi Agrippa, qui était présent lui aussi, il avait dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Seriez-vous en mesure de rendre un témoignage comme Paul l'a fait? Pourriez-vous exposer vos idées logiquement en vous en tenant aux faits, dire « Voilà ce que je crois et voilà pourquoi nous devrions en être capables ?» 1 Pierre chapitre 3 verset 15 nous dit d'être toujours en mesure de nous défendre avec douceur et respect devant quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. Cela ne veut pas dire d'aller dans les lieux publics pour imposer nos croyances à ceux qui s'y trouveraient. Non, mais si l'on vous pose une question, ayez une réponse prête qui soit logique et convaincante. 1 Thessaloniciens 5, versets 20 et 21, nous dit de prouver toute chose. Mettez au clair ce que vous croyez, et vous, les parents, aidez vos enfants à se prouver à eux-mêmes ce que nous enseignons, qu'ils finissent par s'approprier les connaissances que l'Église enseigne. Ainsi, montrez-leur comment prouver que Dieu existe. Comme vous le savez, Dieu se moque de ces gens qui prétendent qu'il n'existe pas. Psaume 14, verset 1, dit même que seul un insensé ne croit pas en l'existence de Dieu. Oui, il faut être fou pour ne pas croire en l'existence de Dieu. Ainsi, montrez à vos enfants pourquoi c'est insensé de ne pas croire en Dieu. Tantôt dans les annonces, on a entendu que nos enfants qui se trouvaient au camp de Virginie-Occidentale avaient prié pour que Dieu veille sur la météo là-bas. Eh bien, croyez-le ou non, alors qu'ils chantaient des chansons tirées d'un livre et que quelques gouttes tombaient parmi eux, plus loin, à 100 mètres de là, il pleuvait à verse. Remarquable, non? La même chose est arrivée à Cape Cod, alors que nous devions y passer une semaine. Nous avions eu un été pourri jusque-là, mais lorsque nous sommes arrivés sur place, les nuages se sont soudainement dissipés. Une semaine plus tard, à notre départ, voilà qu'ils revenaient, ce qui a fait dire à un des résidents de l'endroit, « J'ai l'impression que ces gens ont des connexions avec quelqu'un. » Voilà qui était agréable à entendre. Je me suis contenté de répondre, « Peut-être. » L'autre s'est alors gratté la tête, témoin perplexe de ce qui s'est passé. Partagez des expériences de ce genre. Prouvez les choses à vous-même, de même qu'à vos enfants. Aidez-les à être convaincus que la parole de Dieu est vraie. Jean chapitre 17, verset 17 dit « Ta parole est la vérité ». La Bible, ce livre dont les gens se moquent aujourd'hui, mettez-vous votre entière confiance en elle? Vous en servez-vous pour guider votre vie, en dépit de ce que les gens disent? Il y est notamment question de prophétie. Alors tournons-nous vers Ésaïe chapitre 46, où le prophète s'adresse aux critiques de son époque, disant, Ésaïe 46, verset 8, « Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes. » Autrement dit, faites face à la réalité. Pécheurs, rentrez en vous-même. Souvenez-vous, verset 9, de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. La Bible est en quelque sorte l'histoire écrite à l'avance, Dieu étant capable de prédire le futur. Christ n'est pas encore revenu, mais les prophéties annoncent qu'il va revenir. Il reviendra donc. Il y a d'autres choses que nous avons vues s'accomplir, notamment « mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté ». Ici, le mot hébreu traduit par « arrêt » indique que ce qu'il a décidé s'accomplira. Nous pouvons compter dessus. Faites bon usage de cette information qu'il nous donne. Voyons aussi 2 Pierre chapitre 1, versets 16 à 19. 2 Pierre chapitre 1, verset 16. « Ce n'est pas en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. » Il y a aujourd'hui des gens qui disent « Nous ne savons pas si la Bible est digne de confiance, et nous ne savons pas si le Christ a existé ou non. » Cependant, vous pouvez trouver des références historiques au fait que Jésus-Christ a vécu. Pierre a dit, « Nous étions des témoins oculaires. Nous étions là. Nous l'avons vu. Nous avons vu ces miracles. » Mais pouvez-vous croire ce que Pierre a dit? Peut-être que ce n'était pas lui qui avait écrit cela. Peut-être que quelqu'un d'autre l'a écrit et a simplement utilisé son nom. Ce sont là certains des arguments qu'on entend aujourd'hui, mais nous avons besoin d'être sûrs. Plus loin, au verset 19, il est dit, 2 Pierre 1, verset 19, « Et nous, » il s'adresse ici à l'Église, il parle des apôtres, « nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. » Quels sont ceux qui ont compris la parole prophétique au cours des 40, 50, 60 dernières années? Nous n'avions peut-être pas raison sur tous les points, mais notre vision d'ensemble était bonne. Les critiques ont beau dire, « Oui, mais vous vous êtes trompé sur ce point particulier, et aussi sur cet autre. » N'empêche que notre vision d'ensemble était intacte. L'Europe est en train de devenir forte, et l'Allemagne en est le leader. Vous devez avoir confiance en ces choses, mais vous devez aussi le prouver à vous-même. Le verset 19 achève en disant que nous devrons être d'autant plus aux aguets que la fin approchera. Alors, pouvez-vous donner une réponse à l'espoir qui est en vous? Calmement, clairement, logiquement, peut-être vous faudra-t-il la mettre par écrit, la fignoler. À mes débuts dans l'Église, j'avais pris en note les prophéties qui s'étaient accomplies et d'autres choses qui m'avaient frappé. Je me souviens de cette conversation que j'avais eue avec le ministre qui m'a baptisé. Il m'avait demandé « Pourquoi pensez-vous que nous sommes la véritable Église ?» À cela, j'avais répondu, « Eh bien, vos enseignements prophétiques font vraiment beaucoup de sens. » »« Oui, c'est vrai, » a-t-il ajouté. « La prophétie est importante, mais comprenez aussi que la Bible nous enseigne un mode de vie qui fonctionne. » Au camp d'été 2021, en Virginie-Occidentale, nous avions adopté pour thème central « La voix de Dieu fonctionne ». Analysez la vie des gens qui vous entourent. Considérez votre propre vie. Notez ce qui arrive aux gens qui prennent un chemin différent de celui que vous avez décidé de prendre et comparez ce qui en résulte. Oui, considérez ce qui leur arrive tout en priant pour eux. Voilà, c'était là notre deuxième point. Soyez prêts à défendre vos convictions. Point numéro 3. Vous êtes-vous préparé pour le travail qui vous attend? C'est que Jésus nous dit de veiller et d'être prêt. Il nous faut avoir l'œil ouvert et être prêt. Êtes-vous prêt pour le travail à venir? Dans Jean chapitre 14, verset 3, durant la nuit précédant sa crucifixion, Jésus a dit à ses disciples, « Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. C'est là qu'est notre espoir. C'est ce que nous attendons avec impatience. » Voyons aussi ce que dit Ésaïe chapitre 40 au verset 10. Ésaïe 40, verset 10. Voici, le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici, le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. La récompense va être une couronne. Nous régnerons avec Jésus-Christ dans le royaume de Dieu à venir. C'est là la récompense qui nous attend. L'œuvre, elle, consistera en quelque chose d'autre. Pour le savoir, lisez Jean chapitre 4, verset 42. Pourquoi Christ reviendra-t-il? Il y est dit que Christ reviendra en tant que sauveur du monde, pas seulement de vous et de moi, car si vous lisez Jean 3, verset 16, il y est dit que si vous croyez en lui, vous êtes sauvés. Et ce que les protestants font, c'est de prendre ce verset et d'en faire une référence à une seule personne, vous en l'occurrence. Pourtant, n'est-il pas dit dans Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde, par le monde, il faut comprendre la création entière, y compris tous ceux dans le monde qui s'opposent à lui dans le moment présent. Oui, Christ reviendra pour sauver l'humanité tout entière, donc pas seulement une personne. Hélas, c'est ce sur quoi se concentre le soi-disant christianisme moderne. Juste vous, cela vous inclut, certes, mais cela m'inclut aussi, et cela inclut même les gens qui ne veulent pas qu'il revienne. Voilà l'œuvre à laquelle nous serons amenés à participer. C'est là la tâche qui nous attend. Oh, je vois que le temps passe. Il va donc falloir accélérer le pas et s'en tenir à l'essentiel. Rendons-nous au livre de Tite, où Paul conseille Tite à propos de la façon de prêcher et de se comporter envers les frères. Voyons Tite chapitre 3, verset 1. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir. Autrement dit, abstenez-vous de participer à des émeutes, de commettre des actes de vandalisme, de violer les lois du pays. Poursuivons. D'être prêt à toute bonne œuvre. Oui, faites le bien. Toujours dans la même veine, il ajoute, verset 2, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Ainsi, nous avons été appelés à faire partie d'une œuvre. À son retour, Christ utilisera un groupe de personnes pour littéralement changer le monde. Cela dit, il n'y a rien de mal à s'énerver à propos de ce qui se passe dans ce monde, d'autant plus que vous allez avoir l'occasion de contribuer à le changer. Je me souviens d'avoir un jour assisté à une conférence de presse à Washington, D.C. C'était à l'époque où les hippies étaient actifs, donc probablement dans les années 70. Et ce jeune homme, qui semblait avoir le même âge que moi à l'époque, criait à plein poumon « Ouais, nous allons changer les choses, nous allons mettre Washington à genoux !» Il s'agitait et faisait beaucoup de bruit. Je suis allé le voir après et lui ai dit « Puis-je vous poser une question ?»« Quoi ?» voulut-il savoir. J'ai dit, et qu'allez-vous faire après que vous aurez mis Washington à genoux? Foutez le camp, fut sa seule réponse. Il n'avait manifestement pas de plan. Des gens comme ça n'ont d'autre objectif que de détruire, faire tomber le gouvernement. Mais qu'allait-il faire après ça? Donner du LSD à tout le monde? S'amuser? Il n'avait pas d'autre plan de prévu. Nous, par contre, allons devoir redresser les choses. C'est le travail qui nous attend. Matthieu 17, verset 11, parle de restaurer les vraies valeurs. Notre travail consistera à aider les gens à retrouver ces vraies valeurs. Que faut-il entendre par vraies valeurs? Eh bien, certains comportements ne seront pas encouragés. Plus que cela, certains comportements seront proscrits. Et on devra leur expliquer pourquoi. Certains types de gouvernements vont être changés. L'éducation va subir des transformations. Il en sera de même de la religion. Ainsi, il nous faudra être capables d'expliquer aux musulmans et à d'autres que ce qu'ils croient n'est pas conforme à la Bible et à ce qu'elle enseigne. Il faudra les amener à se conformer à la volonté de Dieu. Vous préparez-vous à cela? Êtes-vous prêt? En fait, être prêt N'implique-t-il pas qu'on se prépare? Êtes-vous prêt pour ce qui va arriver? Voulez-vous faire partie de l'action? Espérons que vous n'avez pas souscrit à cette opinion sur laquelle certains se reposent. Eh bien, je vais être au ciel suite à l'enlèvement des véritables chrétiens. Et de là, je vais juste suivre l'évolution des choses avant de revenir sur terre où tout sera dès lors merveilleux. Non, il y aura là des gens qui auront vécu la tribulation. Ils seront en état de choc à cause de ce qui se sera passé. Quelqu'un va devoir les prendre en charge et leur apporter espoir et soulagement, disant « Écoutez, calmez-vous, tout va bien aller dorénavant, et il faudra les orienter dans la bonne voie, la voie du bonheur et du succès. » Voilà qui fera partie de notre travail. Alors, comment se préparer pour ce travail? Point numéro 4. Nous allons devoir enseigner aux gens une autre façon de vivre. Êtes-vous prêt à enseigner au monde la voie de Dieu? Ésaïe chapitre 30, versets 20 et 21, dit qu'à cette époque, les gens verront ceux qui les enseigneront. Ainsi, vous pouvez me voir, moi qui vous parle, et il vous sera possible de me parler plus tard. De même, eux aussi, ils verront ceux qui leur enseignent, et ils pourront parler avec leurs enseignants après, sur une base individuelle. Ils se feront alors dire, « Voilà la voie à suivre. » Marchez-y, et vous vous en porterez bien. Je me souviens encore d'une certaine jeune femme. Ses parents étaient venus à l'église, et elle a commencé à venir à son tour. Hélas, elle est tombée enceinte, et m'avait alors appelé pour être avec elle quand elle l'annoncerait à ses parents. Quand elle leur a expliqué ce qui s'était passé, ceux-ci ont fondu en larmes. Puis elle a commencé à pleurer à son tour, et j'ai fait de même. En fin de compte, ils m'ont tous regardé et ont dit, « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et moi de répondre, « Écoutez, si vous orientez votre vie dans la bonne direction, tout finira par s'arranger. » Et j'ai ajouté, « Je ne sais pas comment ça va se passer, mais si vous agissez bien, ça va s'arranger. J'en suis convaincu. » Après tout, Romains 8, verset 28, « Ne dit-il pas que toute chose concourt au bien de ceux qui sont appelés et qui font les choses à la manière de Dieu ?» Faites ainsi et vous verrez que les choses vont s'arranger. Une partie de notre travail en tant que futur enseignant dans le royaume de Dieu consistera à montrer aux gens la voie à suivre. Je vous suggère de lire l'ensemble du premier psaume. Il y est dit « Béni est la personne qui fait les choses de cette manière ». « Béni » signifie être envié. Cela signifie être chanceux, être heureux. Si vous le faites de cette façon, tout ira bien. Mais le psaume 1 dit aussi que si vous refusez de marcher droit, vous aurez des ennuis. Ça ne marchera pas. Voilà quelle sera notre tâche à l'avenir. Ésaïe chapitre 2, versets 2 à 4, nous annonce aussi que la loi sortira de Jérusalem. Oui, nous allons alors enseigner aux autres nations et nous le ferons en nous basant sur la loi de Dieu. C'est pourquoi il est important pour nous d'étudier la Bible et d'apprendre à appliquer les lois de Dieu dès maintenant. Deutéronome 17, versets 18 à 20, imposait au roi d'Israël de se faire une copie personnelle de la loi. Oui, ils devaient rédiger une copie de la loi de leurs propres mains. C'est là une bonne idée, tant il est vrai que si vous faites appel à plusieurs de vos sens simultanément, vous aurez d'autant plus de chances de retenir ce qui fait l'objet de votre étude. Donc, étudiez la loi de Dieu quotidiennement et vivez selon elle. Quand Esdras a été renvoyé de Babylone à Jérusalem, voir Esdras chapitre 7, versets 6 à 10, il est dit qu'il a préparé son cœur pour la tâche qu'il y attendait. Il savait que son travail consisterait à ramener les gens à la parole de Dieu et à les orienter dans une direction différente, la bonne direction. Puis, plus tard, il est mentionné qu'il a préparé son cœur à rechercher la loi, à accomplir la loi et à enseigner la loi. C'est ce à quoi nous devons nous préparer nous aussi. Nous l'étudions et nous apprenons à l'appliquer. Voilà qui caractérisera notre travail dans le royaume de Dieu à venir. Réorienter la religion, réorienter l'éducation et réorienter les familles. Oui, le mari se doit d'être le chef de sa famille, et la femme doit l'accepter. Mais il ne doit pas pour autant se comportée en tyran, l'opprimée en exigeant d'elle une soumission inconditionnelle. Non, lisez la dernière partie de 1 Pierre chapitre 3, où il est question des responsabilités qui incombent à l'épouse. Notez qu'il y est dit également que le mari doit aimer sa femme et la traiter avec égard, d'être sensible à ses besoins particuliers. Ne dites pas « Quoi ? Que voulez-vous dire ? Ne suis-je pas en charge ici ?» Certes, vous êtes en charge, mais conduisez-vous d'une manière juste et sage, avec considération. On entend dire communément que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. On entend par là qu'ils ont différentes façons de voir les choses, différentes façons de penser. Pourquoi Dieu ne nous a-t-il pas créés pareils ? Parce qu'il veut que nous arrivions à comprendre l'autre personne, et cela requiert du temps. Il faut être patient. Acceptons et suivons les lignes directrices que Dieu nous donne. Apprendre est une chose, mais mettre la connaissance en pratique a aussi de l'importance. Quand vous lisez les écrits de Moïse, vous êtes confronté à des « tu feras ceci » ou des « tu ne feras pas cela ». Il y a aussi question des bénédictions et des malédictions. Au fil des années, nous avons peut-être trop mis l'accent sur les malédictions. Ainsi, les proverbes ne disent-ils pas « épargnez le bâton et vous gâterez l'enfant ». Je sais, avec mes garçons, j'ai peut-être trop usé de la baguette pour les ramener à l'ordre. Et cela parce que je ne voulais pas qu'ils soient gâtés. Je me souviens encore de ce que disait mon père quand j'étais jeune. « Mon garçon, nous avions un professeur redoutable à l'école primaire, un certain Vod Vikaman. Il avait une règle. Lorsque tu te comportais mal, il te tapait sur la main. C'est qu'il suivait les instructions du même livre que nous. Épargnez le bâton et vous gâtez l'enfant. » Parmi la communauté des puritains, quelqu'un se promenait durant les services avec une longue perche. À l'une des extrémités de la perche se trouvait une plume. Et si vous vous endormiez, il venait vers vous et vous chatouillait sous le nez pour vous réveiller. Mais il avait aussi une balle à l'autre extrémité de la perche. Et si vous parliez, il arrivait derrière vous et s'en servait pour vous asséner un coup sur la tête. Vous voyez, il n'épargnait pas la baguette, car il ne voulait pas gâter les enfants. Nous devrions peut-être adopter une pratique similaire chez nous. La loi de Moïse nous enjoint donc de faire ceci et de ne pas faire cela. Et nous avons certes besoin de directives pour bien mener notre vie. Mais dans les proverbes, on insiste plutôt sur le fait qu'une personne sage fera ceci alors qu'un insensé fera cela. Et nous voudrons bien sûr encourager les gens à prendre des décisions sages et non des décisions insensées. Ainsi, le contenu et la méthode sont deux choses importantes. Alors, je vous pose la question, êtes-vous prêt à enseigner la voie de Dieu ? Vous y préparez-vous ? Point numéro 5. Êtes-vous prêt à diriger à la manière de Dieu ? Oui. Êtes-vous prêt à diriger à la manière de Dieu ? Apocalypse chapitre 5, verset 10, parle des saints comme étant des rois et des sacrificateurs dans le royaume de Dieu à venir, donc à la fois des dirigeants civils et des dirigeants religieux. Daniel 4, verset 17, dit que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il élève le plus vil des hommes. N'est-ce pas intéressant? Oui, c'est là le monde de l'homme, ce qui caractérise les gouvernements humains. J'ai lu quelque chose l'autre jour où quelqu'un disait, « Vous savez, la politique est tout simplement sale. » Oui, sale, mais cela va changer. Cela va changer dans le royaume de Dieu à venir. Nous avons été appelés à sortir de ce monde et à apprendre à diriger d'une manière différente, avec amour, certes, mais aussi avec fermeté aux besoins. Et vous avez des exemples dans la Bible, notamment dans 1 Roi, chapitre 12, où Roboam, le fils de Salomon, avait reçu à la fois le conseil des jeunes gens de son entourage et celui des anciens qui avaient servi son père. Ces derniers lui avaient conseillé de se mettre au service des gens, d'agir en tant que serviteur. Par contre, les jeunes gens qui le côtoyaient lui conseillaient au contraire de se montrer dur, de leur faire sentir qui était en charge et de les mener à la trique, ce qui a provoqué une rébellion. Proverbe 29, verset 2 dit « Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie, mais quand le méchant domine, le peuple gémit. » Quand nous faisons les choses à la manière de Dieu, les gens se réjouissent. Préparons-nous donc à faire les choses à la manière de Dieu. Imprégnons-nous donc des exemples que nous trouvons dans la Bible. Lisez quelques livres à propos de leadership. Certains leaders ont fait du bon travail, d'autres pas. Récemment, j'ai lu un livre ayant pour titre « The White King ». Il parlait d'Alfred le Grand, un roi qui vivait en Grande-Bretagne dans les années 900 de notre ère. Il était chrétien, mais dans ce livre, on mettait l'accent sur les gens qu'il servait et non sur lui-même. Cela dit, si vous vous tournez vers Deutéronome chapitre 17, vous verrez que les Écritures prescrivaient au roi non seulement de lire le livre, de lire la loi, mais aussi de ne pas adopter un style de vie trop luxueux. On lui prescrivait notamment de ne pas acheter un tas de chevaux. Aujourd'hui, ce serait des voitures. Figurez-vous qu'au moment de quitter son poste de président, le ressortissant d'un certain pays africain se vit offrir comme cadeau de départ 11 voitures et 3 maisons, alors que dans son pays, le citoyen moyen ne gagne qu'un, voire $2 par jour. Incroyable. Exactement ce que la Bible proscrit. Lorsque nous serons en charge, il nous faudra diriger à la manière de Dieu. Point numéro 6. Connaissez-vous le Seigneur? En disant cela, j'espère que je ne passerai pas pour un protestant. Oui, savez-vous comment Jésus-Christ ferait les choses? Pour la réponse, allez à Matthieu chapitre 7. Ainsi, avons-nous la pensée de Dieu, la pensée de Jésus-Christ? C'est ce que nous devons développer, sinon nous ne serons pas prêts lorsque Christ reviendra. Dans Matthieu chapitre 7, à la fin du sermon sur la montagne, à partir du verset 21, nous lisons Matthieu 7, verset 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui ou celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Nous devons faire les choses à la manière de Dieu, et non en suivant nos propres voies. Pas question de poursuivre tel ou tel agenda personnel sous prétexte que cette manière de faire pourrait nous apporter plus de plaisir ou de satisfaction. N'est-ce pas ce que la plupart des gens font aujourd'hui? Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Ne sommes-nous pas toujours venus aux assemblées sabbatiques? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Oui, loin de moi, vous qui n'avez pas cherché à me connaître, qui ne me parliez presque pas, qui négligiez de lire le livre d'instruction que j'avais mis à votre disposition. » Il y aura des surprises quand Christ reviendra. À nouveau, connaissez-vous le Seigneur? Est-ce que vous marchez avec lui? Est-ce que vous lui parlez et lui apportez vos problèmes? Vous laissez-vous guider par lui dans votre vie? Enfin, point numéro 7. Pour nous préparer à régner avec le Christ, nous devons tirer le meilleur parti de l'opportunité que nous avons maintenant de nous préparer pour ce rôle. Tournons-nous à présent vers Éphésiens chapitre 5, où Paul s'adresse à des gens, principalement des païens, des gens bien intégrés à leur milieu, mais qui avaient par la suite été appelés hors de ce milieu, hors du monde. Éphésiens 5, verset 8. « Autrefois, vous étiez ténèbres. » Cela vaut pour beaucoup d'entre nous. Certains d'entre vous ont eu la chance de grandir dans l'Église. De ce fait, ils n'ont pas connu un tas de problèmes. Considérez cela comme une bénédiction et ne vous imaginez pas que vous avez manqué quelque chose. C'est parce que nous avons eu des gens qui ont grandi parmi nous dans l'Église et qui nous ont quittés par la suite. De leur propre aveu, ils ont voulu goûter au soi-disant plaisir de ce monde. Ils se sentaient à l'étroit parmi nous. Eh bien, certains d'entre eux nous sont revenus. Parfois après 10 ans, 15 ans ou 20 ans, ils sont revenus en boitant et en affichant de nombreuses cicatrices. J'espère que vous ne serez pas tenté un jour de faire comme eux. À nouveau, autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Oui, marchez comme des enfants de lumière. Découvrez ce qui est acceptable aux yeux de Dieu. Lisez sa parole. versets 15 et 16. « Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps. » Oui, profitez au mieux du temps qu'il vous reste. Ne venez pas au service en guettant votre monde du coin de l'œil, mine de dire « Voilà, à 16h, je m'éclipse ». Non, au contraire, en venant ici, vous devriez vouloir absorber tout ce que l'Église peut vous offrir. Profitez-en pour poser des questions. Imprégnez-vous de tout ce qui est disponible. Par exemple, nous avons un cours de Bible par correspondance. Suivez-le. Étudiez-le. Fixez-vous des objectifs de ce type. Profitez de nos études bibliques du mercredi soir et, si vous le pouvez, des enseignements dispensés dans le cadre de la Living Education, ainsi que de nos nombreuses brochures. Ne gaspillez pas votre temps. Préparez-vous pour l'avenir. Quand j'étais enfant, et quand vous étiez enfant, vous avez probablement joué à cache-cache. Je prends pour acquis que tous connaissent ce jeu. Quelqu'un se tient debout, ferme les yeux et compte jusqu'à 50, 100 ou peu importe. Pendant ce temps, tout le monde court pour se cacher. Et puis on entend ce cri « Prêt, pas prêt, j'arrive !» Et voilà que la personne qui comptait se met à courir dans tous les sens pour essayer de trouver où l'on s'était caché. Apocalypse, chapitre 19, verset 7, dit que l'épouse de Christ s'est préparée. Elle s'est efforcée d'être prête pour son retour. Dans Matthieu, chapitre 24, les apôtres avaient demandé à Jésus-Christ « Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde, ou plutôt de l'âge ?» Et ils avaient un motif pour poser la question. Ils savaient qu'au retour de Christ, ils recevraient une couronne, qu'ils régneraient avec lui. Ils avaient donc un motif en tête. Alors il leur a donné certains signes, puis il a ajouté « Veillez et soyez prêts ». Oui, soyez sur vos gardes, gardez les yeux ouverts. Nous avons souvent parlé de ce thème dans l'Église, mais je voulais parler aujourd'hui de ce que nous devons faire pour être prêts. Être prêt, cela dépend de vous et cela dépend de moi. Et un de ces jours, nous allons tous entendre le retentissement d'une trompette et nous allons entendre un cri. Je ne sais pas sous quelle forme cela se manifestera, mais cela pourrait être ainsi. Prêt, pas prêt, me voici. Frères et sœurs, serez-vous prêts? Efforçons-nous tous de l'être.